On va essayer de rester vraiment dans les temps, enfin, de rattraper même un tout petit peu le retard, en demandant au professeur Olivier Bonneau, qui est pédopsychiatre à Nantes, de venir nous parler de oser l'intelligence artificielle. Merci.
Merci beaucoup. Donc, on a tous été très impressionnés. On se demande comment un pays de 6 millions d'habitants peut avoir un institut avec 40 personnes pour s'occuper de télépsychiatrie, même pas médecine, télépsychiatrie et digital en psychiatrie, alors qu'un pays de 65 millions n'a rien de tout ça. On est vraiment assez en retard. Je voudrais remercier Pascal Mariotti et tous les gens de l'ADESM de m'avoir invité et d'avoir organisé, au fond, un tel congrès qui, à la fois, permet de parler de plein de choses et en même temps permet de se rencontrer des soignants, des cliniciens et ce qu'on appelle parfois les administratifs. Et on a tout intérêt à discuter ensemble, parce que de toute façon, on a tous le même objectif, normalement, et je pense que ce genre de congrès y contribue. Donc la question, c'est l'intelligence artificielle, le digital en psychiatrie. On va parler un peu de digital, beaucoup d'intelligence artificielle, un petit peu d'utilisation médicale en général de tous ces outils, et c'est des domaines qui bougent énormément. Et bien sûr, des spécificités en psychiatrie. La psychiatrie est vraiment à part. Donc là encore, un institut spécifique pour ça. On se demande, enfin, il faut vraiment le faire tout de suite. Alors, tous digitaux, oui. On est tous, maintenant, tout le monde, j'imagine, dans sa poche, a un téléphone, un type de smartphone. Notre taux d'équipement est un peu plus bas que celui du Danemark. Mais enfin, il s'en rapproche et il s'en rapproche de plus en plus vite. Je vous rappelle que les smartphones et les téléphones dits intelligents ne datent que d'une dizaine d'années. C'est assez spectaculaire. L'iPhone est sorti en 2007. On est en 2018 et ça a déjà entièrement transformé notre vie. Alors, ça a transformé notre vie, oui. Ben, ça, vous la connaissez, cette image. C'est celle de tout, de nos enfants et de tout ce qu'on peut voir un peu à droite et à gauche. On connaît aussi ça, qui fait que l'utilisation des smartphones maintenant fait que beaucoup de choses sont faites à travers ça. Les sociologues travaillent aussi sur cette question du lien qu'on a, probablement aussi lié au fait que c'est des appareils qui sont tactiles. Il y a un rapport très particulier avec son smartphone. Certains parlent d'animisme digital. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut discuter à l'infini, mais dont on peut utiliser dans les pratiques. L'intelligence artificielle, ça ne se résume pas au digital. C'est beaucoup plus complexe. On sait, et vous avez sûrement, bien sûr, le souvenir de cet ordinateur, Carl, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, qui contrôlait tout le vaisseau et qui finissait par devenir fou et à qui on enlevait toutes ses bases de données et qui régressait. Alors, c'est intéressant parce qu'il régressait comme un petit enfant, ce qui laissait entendre qu'en sens inverse, on l'avait élevé aussi comme un petit enfant. Et vous verrez, j'y reviendrai, que la psychiatrie et la pédopsychiatrie en particulier ont une place considérable à jouer dans le développement d'algorithmes plus complexes et plus sophistiqués en intelligence artificielle, parce que l'objectif, c'est le fameux test de Turing, c'est ça le rêve ultime des gens qui font de l'intelligence artificielle, c'est que si vous discutez avec une machine, vous ne savez pas avec qui vous discutez, et vous avez en face de vous soit une machine, soit un être humain, et vous n'êtes pas capable de faire la différence. C'est ça l'objectif, espèce de rêve ultime. Aujourd'hui, les sommes qui sont dépensées par les grosses compagnies, soit américaines, soit chinoises, dans ce domaine, et les puissances de calcul des ordinateurs, laissent entrevoir ce genre d'objectif, parce que les sommes dépensées sont considérables en centaines de milliards de dollars, donc bien loin des plans qu'on peut avoir, 10 millions pour faire de l'intelligence artificielle. Ça, c'est bien, bien faible. Alors, en 97, vous vous souvenez peut-être, pour les plus âgés d'entre vous, une machine avait battu Garry Kasparov aux échecs, et on avait dit qu'il faudrait peut-être une centaine d'années pour qu'une machine puisse battre quelqu'un au jeu de Go. Et en fait, ça a été fait seulement 20 ans après, avec le champion du monde de Go, dans la même posture que le pauvre Kasparov, qui a été, lui, battu par... Alors, là, au début, c'était IBM, et maintenant, c'est Google qui est capable de faire ça. Alors, l'intelligence artificielle, quand on en parle, c'est beaucoup de choses très différentes et qui toutes nous concernent en psychiatrie. Ce qu'on appelle le Natural Language Processing, c'est en fait une manière d'analyser, et il y a beaucoup de travaux là-dessus, au fond, la façon soit dont on parle, la prosodie, les mots, les textes également. Et donc, il y a beaucoup de travaux qui essayent de dire bah, on a une telle masse de textes en psychiatrie, peut-être serait-on capable de les utiliser pour pouvoir arriver à faire un certain nombre de prédictions sur nos plaçants. La robotique, dont on disait que c'était le facteur limitant de l'intelligence artificielle, et que si dans les autres domaines, qui étaient au fond que des puissances de calcul et des mathématiques, on allait progresser très vite, en robotique, on allait progresser lentement. J'imagine que tous ceux qui, d'entre vous qui ont vu les dernières vidéos de Boston Robotics où on voit ces espèces de robots qui marchent et qui sautent à droite et à gauche et qui s'améliorent d'année en année, on voit bien que ce n'est plus aussi un facteur limitant. Les réseaux neuronaux, c'est un peu ce dont on va essentiellement parler. Fusil logique, c'est une méthode de calcul particulière qui montre que l'intelligence artificielle et c'est des statistiques, sont intéressantes parce que plutôt que de voir le monde comme 0 ou 1, c'est-à-dire est-ce qu'il y a quelque chose ou est-ce qu'il n'y a pas, elles sont capables d'avoir avec cette logique dite fluide une palette de infini entre le 0 et le 1, et c'est bien ça qu'on a, nous, en pratique clinique, des patients psychiatriques, on a des patients qui sont malades, d'autres qui ne sont pas malades, et entre les deux, on a des gens qui sont un peu vers l'un ou vers l'autre. Les systèmes experts, c'est ce dont je vous parlerai un peu, puisque c'est là-dessus que nous avons décidé à Nantes de nous orienter. Tous ces systèmes sont basés, pas que, mais au départ en tout cas, sur un théorème très ancien, qui est un théorème de statisticien, que les statisticiens connaissaient et utilisaient, de statistique dite conditionnelle, et qui nous intéresse particulièrement, parce qu'il a pour objectif de faire des estimations. Comment il les fait ? Alors, en général, quand on veut expliquer ces théorèmes de calcul, on explique que le cerveau humain peut fonctionner un peu de la même façon, et qu'au fond, on a vraisemblance, a priori et évidence. Et en gros, si la nuit, vous vous réveillez et que vous voyez une forme à côté de vous, évidemment, il fait un peu sombre, vous ne pouvez pas complètement distinguer. Votre a priori naturel, c'est que ce soit votre femme ou votre maîtresse, ça dépend de la vie que vous avez, mais en tout cas, quelqu'un qui est votre conjoint, enfin, ça, c'est votre a priori avant même d'avoir vu quoi que ce soit. L'évidence vous donne un certain nombre d'informations, c'est-à-dire que vous voyez bien avec la lumière un peu faible et vos yeux, éventuellement d'autres sens, quelle personne est là, et donc vous pouvez faire une estimation de est-ce que ça ressemble ou pas à ce que j'imaginais dans mon a priori. Et la vraisemblance, c'est ce qui est vraisemblable dans cette affaire, une fois que vous avez l'évidence. Et donc, tous ces éléments vont mouliner entre eux, en quelque sorte, vont s'additionner, enfin, en l'occurrence, se multiplier, et vous donner une estimation. Et vous allez dire, bon, ben voilà, je suis bien à côté de cette personne. On voit bien que, avec le temps, et dans des circonstances différentes, les a priori peuvent changer, les évidences peuvent changer, et du coup, et beaucoup la vraisemblance. L'idée de tous ces calculs, c'est toujours la même chose, c'est de faire des estimations, des classements et des catégorisations. Alors on parle beaucoup du big data, qui est une sorte de graal de la médecine, et qui se voudrait aussi un graal de la psychiatrie. Je pense que ça va être moins le cas en psychiatrie qu'en médecine, en tout cas de manière un peu différente. Et il y a, tout au début, dans les années 2000, les gens de chez Google ont sorti un article expliquant ce qui a fondé toute leur philosophie. Et aujourd'hui, c'est avec DeepMind, pratiquement les plus gros financeurs du développement de l'intelligence artificielle, que ce qui était important, c'était surtout d'avoir des données et que d'avoir un bon algorithme, c'était secondaire. C'est ce que montre un peu ce graphisme. Ce qui est marqué tout en dessous, qui s'appelle bayésien naïf, c'est au fond utiliser pratiquement uniquement la formule de Bayes et de demander à une machine de catégoriser et de classer et d'estimer les choses sans rien savoir à l'avance. Et on voit que plus on lui fournit des données, plus finalement elle va pouvoir se rapprocher d'une certaine excellence, et ce, quelle que soit la qualité de l'algorithme qui est là, et l'algorithme le plus simple. En utilisant une méthode comme ça, quelques années après, une dizaine d'années, ils ont demandé à une machine extrêmement simple, avec plusieurs types d'algorithmes préétablis, d'observer des images sur YouTube, uniquement des images sur YouTube, ça leur appartient, c'est facile, pendant environ une trentaine d'heures, hein, pas des années non plus, très rapidement. Et puis, ensuite, ils ont demandé à la machine a simplement tout regardé sans aucun a priori de départ, et elle a classé, estimé, c'est-à-dire ce qu'elle sait faire, c'est pas une machine intelligente, hein, elle fait des estimations, et puis elle a fait des paquets, puis petit à petit regrouper ses paquets, puis regrouper encore plus ses paquets, et ainsi de suite. Et puis à la fin, on lui a demandé de pouvoir distinguer ce qui était un visage, ce qui était un corps humain ou ce qui était un chat. Là, je vous ai montré ce qu'elle était capable d'imaginer, qui était un visage humain. Et donc, elle avait une capacité de reconnaître des visages humains, alors qu'elle était partie de rien, qui était au-dessus de 80%, donc, c'est-à-dire au fond assez peu d'erreurs pour une machine toute neuve, c'est-à-dire un enfant tout neuf, en quelque sorte. Alors, au fond, tout ça, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a appris à faire en médecine. Qu'est-ce qu'on a appris tous et quelles ont été nos études et tout ce qu'on a passé sur les bancs de la faculté à essayer d'apprendre, ce sont au fond une manière de partir de signes cliniques, de les catégoriser, de voir, d'estimer à peu près que ça avait plus de chances d'être d'un côté ou de l'autre, et on passe notre vie à faire ça. Donc il y a énormément de travaux, et PHRC d'ailleurs même ont été financés cette année, l'année dernière, l'année encore d'avant, autour d'algorithmes cliniques. Mon collègue Mathieu Hanheim, qui est neurologue, a fait un algorithme très complexe qui a beaucoup de succès sur le classement des ataxies et de mouvements anormaux en neurologie, qui fonctionne parfaitement bien et qui est aujourd'hui, c'est un collègue de Strasbourg, aujourd'hui capable de faire mieux que lui qui est un grand spécialiste et qui est président de la Société de neurologie des mouvements anormaux. Alors, en utilisation médicale, il y a beaucoup de travaux, une littérature ultra abondante. Alors, j'ai pas fait le tableau, le graphisme que beaucoup de gens font montrant l'augmentation de la littérature, mais enfin, c'est plusieurs milliers d'articles et surtout beaucoup d'articles extrêmement récents. Et on voit bien que dans différents domaines, j'ai pris ici quelques exemples uniquement, c'est déjà aujourd'hui le cas. Que des machines qui ne font que analyser, comme les images de YouTube, des images auxquelles après on va confronter avec les résultats qu'on a, à la fois en radiologie, pour les tuberculoses pulmonaires, mais ça marche pour les cancers également, du poumon. Donc là, exemple en radiologie, une machine qui peut être plus performante, montrant que sur 150 images qu'elle regardera, 137 auront un diagnostic totalement exact. Il y aura... Celle qui manque, ce n'est pas que les diagnostics ne sont pas exacts, c'est qu'entre les différents types d'algorithmes, il y a incongruence. C'est-à-dire que les 3 ou 4 ne sont pas d'accord. À ce moment-là, évidemment, on peut avoir un apport humain, mais ça laisse entendre que 137 moins 150, ça veut dire que plus que 13 radios à regarder par un être humain pour 150. Exactement la même chose pour les coupes d'anapathes qu'il faut regarder, que les gens regardent au microscope, ce qui constitue une expertise importante. Là aussi, dans les métastases de cancer du sein, sur des coupes anapathes, le résultat, et ça c'est Google DeepMind qui le fait, est là aussi exceptionnel, et au-dessus de 80-85%, c'est-à-dire bien plus en fait que l'être humain qui peut lui-même, qui se trompe aussi, on n'est pas à 100%, on n'arrivera peut-être pas à 100% de réussite avec ces mécanismes, mais on est de toute façon au-dessus de l'être humain. Pareil en ophtalmo, où aujourd'hui, déjà, une machine a été approuvée pour être capable de diagnostiquer les troubles qui existent dans le diabète et a été approuvée par la FDA pour être déployée dans les pharmacies américaines et qu'au fond, on passe plus chez l'ophtalmo, on va chez le pharmacien, on enlève ses lunettes si on en a, la machine fait le diagnostic et ce sera considéré comme valide pour pouvoir ensuite obtenir un traitement ou surtout un rendez-vous et donc c'est un moyen de dépistage exceptionnel. Dans le mélanome, c'est pareil. Vous pouvez ajouter sur votre téléphone un truc qui prend des photos très, très, très précises et qui permet de faire des diagnostics dermatologiques, en particulier donc du mélanome, avec une précision supérieure à celle de l'être humain et de l'anapath. C'est également valable pour le pronostic, mais on le verra un peu pour la psychiatrie. Alors, en psychiatrie, on fait la même chose, d'une certaine manière. On a, je ne reviens pas, il y en a beaucoup et le temps passe, mais on a des capacités, dans le Parkinson, c'est pas tout à fait de la psychiatrie, mais ça m'intéresse quand même malgré tout, même si je suis pédopsychiatre, on a des capacités en multipliant tous les biomarqueurs qui sont à la disposition des gens qui travaillent dans le Parkinson, en les agglomérant, en moulinant tout ça avec ces algorithmes, d'avoir des détections ultra précoces. Ça détecte pas si une personne va ou pas être malade, ça détecte, ce qui est très différent, ça détecte très précocement la maladie. Donc ça marche très très bien pour l'Alzheimer, ça marche déjà pas mal pour la transition psychotique. Là je vous ai donné, parce que tout le monde parle des résultats qui ont été obtenus en radiologie, qui montrent plus que à peu près entre 80 et 85% de capacité de prédiction, ce qui est énormissime. Mais ça marche également avec l'électroencéphalogramme, un article là assez récent, mais ça marche également sur un certain nombre de données cliniques. Mais chez lui, c'est l'équipe de chez McGorry, donc c'est pas uniquement sur des données IRM, mais ça marche aussi dans d'autres domaines que les psychoses. Ça peut marcher dans le TOC, tout simplement, avec des capacités uniquement là sur des éléments de volumétrie et d'imagerie en DTI, d'avoir là aussi 80% d'efficacité pour faire des diagnostics de TOC, dont on sait que ça peut être un peu complexe. Comment ça marche? Ça marche surtout, et ça marchait également pour les aspects médicaux, parce que tout ça permet d'avoir des prédictions au niveau de l'individu. Pas tout à fait la même chose que de faire des statistiques générales, comme on faisait de l'épidémiologie, qui nous permettait de dire que X ou Y % des gens étaient vulnérables ou en danger par rapport à telle chose. Là, ça permet d'avoir des prédictions qui sont déployables au niveau individuel et donc permettent de prendre des décisions individuelles par rapport aux prises en charge, avec des systèmes qui sont assez complexes sur le plan mathématique et qui vont obliger probablement les nouveaux médecins se conforment à devenir bien meilleurs que je ne le suis en statistique. Je souffre un peu avec mon collègue qui fait de l'IA quand il m'explique tous ces trucs-là, n'étant pas moi-même extrêmement compétent dans le domaine. Un autre exemple rapidement sur la prédiction, c'est toujours notre problème, hein, est-ce que ça va marcher ou pas le traitement qu'on propose. Donc là, c'est une méta-analyse, ça veut dire qu'il y a déjà beaucoup d'études sur le sujet, les dates sont variables, et plus les études sont récentes, plus l'efficacité est grande. C'est pas encore exceptionnel, c'est des prédictions qui sont 0,60, 0,65, 0,70 dans les meilleurs des cas, mais la prédiction de l'efficacité d'un traitement qui va être mis en place pour la dépression entre des types de neuromodulation, des traitements pharmacologiques et des traitements psychothérapeutiques. Vous savez que c'est tout ce qu'on fait. C'est de dire, ben, celui-là, il irait volontiers en psychothérapie, ça va être mieux pour lui. Celui-là, il irait. Et donc là, c'est sur des éléments qui sont des éléments essentiellement cliniques pris en général, mais pas que cliniques, des éléments génétiques qui marchent le moins dans ce cadre-là et des éléments, là encore, de neuroimagerie. Juste un autre aspect pour le dire, mais c'est essentiellement des travaux en France qui sont portés par mon collègue de Lille. Il se passe beaucoup de choses à Lille, je vois en écoutant depuis ce matin. Mon collègue de Lille, Renaud Jardry, qui travaille sur les systèmes qu'on appelle computationnels. Et ces systèmes computationnels, c'est-à-dire au fond une façon de comprendre le fonctionnement psychique, sont extrêmement semblables, enfin, les deux vont dans les deux sens, aux systèmes que l'on met en place en intelligence artificielle. Et je vous encourage vivement à lire cet article un peu compliqué qui est par un des leaders de Google, DeepMind, qui a été écrit l'année dernière, qui est un plaidoyer pour l'interaction entre les neurosciences, mais surtout la psychiatrie et la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et les gens qui font de l'intelligence artificielle, montrant en exemple, ce que je vous ai mis très rapidement là comme ça, à quel point l'architecture des modèles et des réseaux de neurones qui sont mis en place en intelligence artificielle a à voir et s'inspire de ce qu'on connaît et de ce qu'on comprend en psychiatrie computationnelle dans la façon dont fonctionne le cerveau humain en cognition un peu élevée. Pour compliquer le tout, avant que je ne vous parle de ce que je fais précisément, arrive la question du phénotype digital qui a été un peu abordée à l'instant, donc j'irai assez vite. L'idée générale du phénotype digital, c'est que tous les éléments que vous voyez un peu autour, les traces digitales que vous avez, qui peuvent être de vos déplacements, votre empreinte digitale pour votre téléphone, maintenant votre visage, les diverses consommations que vous avez, évidemment les réseaux sociaux, les messages que vous envoyez, peuvent être des éléments qui permettent de faire des diagnostics aujourd'hui et des prédictions. Facebook déjà est capable de lire aux États-Unis les messages pour dire « et celui-là, il est sur le point de se suicider, il faut peut-être avertir ses amis ». Ça marche déjà. Mindstrong, qui est la société qui a été montée par Thomas Sinzel, qui est un petit peu la star dans le domaine, qui était directeur du National Institute of Mental Health avant de travailler chez Google et maintenant de se mettre à son compte, vient de sortir... de mettre en place, alors, je sais pas, c'était juste une press release, je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont exactement, quelque chose qui permet simplement, en s'implémentant sur votre téléphone, en fonction de la façon dont vous tapez, la vitesse à laquelle vous tapez, la façon dont vous tapez les messages, et la façon dont vous balayez votre écran pour passer d'un truc à un autre sur votre écran de smartphone, de faire là aussi une prédiction, une anticipation de savoir si un syndrome dépressif très précocement, enfin un diagnostic très précoce et du syndrome dépressif. Donc c'est vraiment des choses, et là, qui sont rien à voir avec des éléments cliniques ou autres. Je vous rappelle que MindBlue, qui est une société qui est montée par deux polytechniciens français et dont le dispositif avait été testé à Saint-Antoine chez mon ami Stéphane Mouchabac, sur des mouvements du poignet, prévoyait de pouvoir éventuellement prédire les récidives d'états suicidaires et avait des résultats, en tout cas encourageants, pour l'instant pas totalement terminés. Le problème qu'on a en psychiatrie, et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Philippe à l'instant, c'est qu'on a des données de merde un peu. Et donc on a des biomarqueurs qui sont balbutiants, des diagnostics qui sont un peu larges. On sait que plus on va mettre de données dans le domaine spécifiquement de la psychiatrie, comme elles sont très hétérogènes, on va faire beaucoup d'erreurs dans les prédictions, parce que nos données sont complexes, pas faciles à analyser, et en plus, on n'a pas, nous, en fonction d'un diagnostic, un traitement direct. Donc on a quand même, on ne peut pas tout à fait tout automatiser dans notre domaine, et c'est clairement un défi pour l'intelligence artificielle que celui du domaine de la psychiatrie. Un défi intellectuel intéressant, et je crois que c'est vraiment une spécificité qu'on doit maintenir. C'est pour ça que nous, on a décidé de s'intéresser essentiellement à ce qu'on appelle les algorithmes experts, enfin en tout cas les calculs experts, qui permettent en fait de modéliser le raisonnement d'un expert psychiatrique ou de plusieurs, tout en utilisant des modèles probabilistes et des réseaux bayésiens. C'est-à-dire, c'est toujours le même système, des estimations et autres, mais on va essayer, en lui posant un certain nombre de questions sur qu'est-ce qu'il ferait dans telle situation, et pas oui ou non, mais en fait de graduer, je ferais d'abord ça, peut-être ça ensuite, ça un peu, ça en fonction de pourcentage et autres, qui sont des choses sur lesquelles il n'y a pas de data, Alors, on va essayer de modéliser son fonctionnement diagnostique, son fonctionnement par rapport à un patient. Alors, ça prend beaucoup de temps. C'est pas du tout si simple à faire que ça. Mais il existe des spécialistes dans ce domaine, parce que dans d'autres domaines que la médecine, ça a été largement utilisé. Et le grand spécialiste américain de ce sujet, qui s'appelle Judeas Pearl, est un type qui a eu le prix Turing en 2016, et qui, lui, pense que c'est effectivement dans le domaine de la psychiatrie que ces réseaux experts ont probablement le plus de possibilités d'aller se développer. Alors nous, ce qu'on a fait à Nantes, c'est au fond avoir un objectif simple, simple mais pas facile à obtenir, c'est-à-dire de proposer un accompagnement digital pour les patients sur une base quotidienne. Donc c'est vraiment de faire ce que vous évoquiez à l'instant. Alors comment faire ça ? Eh ben en imaginant que l'outil digital, on a choisi le smartphone ou la tablette, elle devient un tiers soignant. C'est pas un interface comme on le fait, comme on parle en vidéo, où on prend des informations et on les donne à son médecin. C'est vraiment un tiers totalement agissant dans la relation soignante. Paraît un peu comme ça, c'est un peu ambitieux d'une certaine façon de le présenter de cette façon-là. Alors comment ? En faisant ce qu'on appelle l'Ecological Momentary Assessment, c'est quoi ? C'est au fond prendre des données du patient, ça a été multi-évoqué, j'y reviens pas, c'est-à-dire on lui pose des questions, il répond. Les questions doivent être simples, il faut que ça soit fait de manière assez rapide, parce que les gens passent pas des heures à répondre des petits trucs avec leur téléphone et avec leur pouce. On verra qu'on a essayé de trouver des solutions pour ça. Et ensuite, de proposer ce qu'on appelle de l'Ecological Momentary Intervention, c'est-à-dire de proposer des conseils adaptés aux questions qui ont été posées à la personne. Alors évidemment, on ne s'est pas focalisé sur tout, on s'est focalisé sur quelques troubles, et je vais vous présenter ça très rapidement, à savoir les troubles de hyperactif, c'est-à-dire les troubles déficit attentionnel avec ou sans hyperactivité, les troubles du spectre autistique, parce que c'est un de mes autres tropismes, quelque chose qui m'intéresse beaucoup, les maladies rares à expression psychiatrique. Je vous rappelle que les maladies rares, c'est 2% de la population, donc c'est jamais rare d'avoir une maladie rare, en quelque sorte, et qu'il y en a à peu près la moitié d'entre elles qui ont, d'une manière ou d'une autre, ou même au-delà de la déficience intellectuelle, des expressions psychiatriques, schizophrénie, autisme, troubles bipolaires, j'en passe et des meilleurs, et surtout des troubles des apprentissages. Et puis, les tentatives de suicide, et en particulier, vous le verrez, les récidives suicidaires. Donc, notre première application, c'est une application qui est toujours en phase de test. D'ailleurs, s'il y a des gens qui travaillent dans l'autisme et qui ont des patients, ils peuvent tout à fait nous prendre contact avec nous et être inclus dans l'étude qui va bientôt se terminer. Mais on peut encore inclure des gens. C'est une étude qu'on a appelée Smart Autisme, Smartphone Autisme. Je ne suis pas très content du jeu de mots, mais enfin, c'est comme ça. Qui est donc sur les stores actuellement, qui a été financé par l'INSERM. Et donc, son objectif, c'est d'accompagner les parents et les aidants, de l'enfant avec autisme au quotidien dans la prise en charge. Alors comment ça se passe ? Ça s'installe sur le smartphone du sujet de manière extrêmement simple. Les données sont très sécurisées. Elles sont d'abord cryptées dans l'application, envoyées sur un serveur lui-même sécurisé. Et quand elles sont cryptées dans l'application et envoyées dans le serveur, il n'y a pas notion ni du nom ni de la date de naissance, à part l'année, il y a juste le sexe, de la personne. Il n'y a pas de retour possible des données. D'accord, il n'y a aucun moyen de revenir en arrière, ce qui sécurise entièrement le système, puisque avec ces données, qui sont en fait une suite de 0 et de 1, on ne peut pas revenir à la personne. Ça n'a aucun intérêt. De toute façon, on ne va pas demander à quelqu'un ce qu'il a coté le 15 mars à 17h30. Donc de toute façon, on ne revient pas en arrière. Donc c'est un système qui est ultra sécurisé, qui a passé toutes les fourches codines des diverses autorisations. Les gens rentrent avec un code. Ensuite, on leur propose des questionnaires. Alors, je vous ai présenté rapidement quelques captures d'écran. C'est fait de manière très simple. Ils remplissent en 3 ou 4 minutes, grand maximum. Alors, ça dépend. Hein. Il y a des questions qui bloquent et puis d'autres qui vont plus loin. Donc, ça peut aller légèrement plus loin. Donc, les gens remplissent par rapport au comportement de leur enfance. Donc, c'est des comportements autistiques classiques, mais aussi par rapport à des ambiances générales. Comment s'est passé le repas? Comment se passe la nuit? Est-ce qu'il vous a réveillé ou autre? Est-ce qu'il est bien en interaction avec les autres? Avec des questions qui peuvent être des questions positives. Et de temps en temps, un peu moins régulièrement, on demande également aux parents et aux aidants comment ils se sentent. Est-ce qu'ils se sont sentis soutenus? Est-ce que c'était facile pour eux et autres? Ce qui nous permet d'avoir énormément, de données dites naturalistes, écologiques, enfin naturalistes, c'est-à-dire en situation réelle vis-à-vis des patients. Ensuite, on propose un feedback avec des évaluations longitudinales. Et puis, pour l'instant, pas complètement, cette application n'a pas encore d'IA à l'intérieur. L'idée, c'est de proposer des conseils plus personnalisés. Là, on était dans le phase de ce qu'on appelle une étude de faisabilité. Est-ce que les gens vont vraiment utiliser? Est-ce que ça va leur plaire? Parce que c'est aussi un élément important. Et j'ai beaucoup apprécié votre présentation concernant, au fond, est-ce que les gens sont d'accord pour utiliser ce genre d'outils? Et ce n'est pas forcément aussi évident, bien entendu, même si ça évolue très vite. Notre deuxième application, c'est une application qui là aussi est en phase de test, qu'on utilise essentiellement à l'intérieur d'un groupe thérapeutique, comme on dit, qui est une application pour l'aide aux devoirs des enfants qui font un trouble hyperactif, un déficit attentionnel avec ou sans hyperactivité. Ceux qui ont des enfants savent bien que les devoirs, ça peut être un peu compliqué, être des moments où on s'agite, on a tout chaud, il faut leur demander de faire les devoirs, c'est un peu dur. Et alors évidemment, quand les enfants sont par ailleurs avec un trouble attentionnel, c'est pire. Et ça peut vous entraîner pendant des heures à des moments complexes. Donc là, toute l'idée du tiers soignant qui peut être une application prend son intérêt. Alors comment ça fonctionne? Ça fonctionne d'abord parce que la personne remplit d'abord un certain nombre d'éléments. Et donc, l'application n'invente pas. Elle sait où l'enfant fait ses devoirs de manière habituelle et quel est l'endroit qu'il préfère. Elle sait globalement quel est le jour de la semaine et qu'est-ce qu'il pourrait avoir à faire tel ou tel jour, si on lui a rempli. Il sait que ce qu'il doit mettre ou pas dans son cartable, le jour où il a piscine ou autre. Et elle va donc lui demander « Est-ce que tu es prêt pour travailler ?» Une fois qu'elle lui demande s'il est prêt pour travailler et qu'il a dit qu'il était prêt, il y a plein de systèmes, c'est un mind map assez complexe, il va pouvoir prévoir le temps qu'il met pour travailler. Il va dire, voilà, je voudrais faire 20 minutes de mathématiques et 10 minutes de français, par exemple, pour faire mes devoirs. La machine ne peut pas savoir si c'est suffisant ou pas. Par contre, elle peut savoir au bout d'un certain temps, et elle apprend ça, si éventuellement il peut être judicieux de commencer par le français et de finir par les mathématiques. Parce que la dernière fois, il s'est beaucoup énervé avec les mathématiques et que ça n'a pas arrangé les choses dans sa durée de travail. Et c'est un peu des choses un peu comme ça. Toujours beaucoup de renforcement positif, elle lui dit tout le temps que c'est bien, que c'est, même quand c'est que moyen, quand ça va pas, évidemment, elle le dit aussi, mais bon, elle essaye toujours de renforcer, on a utilisé toutes les techniques qui sont utilisées dans la prise en charge des enfants, puis après, elle lui dit, bon, si t'as fini, prépare tes devoirs pour demain, il va t'amuser un peu, c'est très bien, et autres. Alors, ça marche pour l'instant très bien, parce que l'application, elle n'est pas parfaite, loin de là, c'est la V1, on débute un peu dans ce domaine, mais on l'utilise avec un groupe de travail, mais notre objectif, c'est d'avoir une application totalement autonome. Le dernier projet, c'est celui qui est probablement le plus ambitieux. C'est celui dans lequel on a ces algorithmes experts, avec lesquels on travaille avec des gens du laboratoire des sciences du numérique de l'Université de Nantes. C'est l'idée de faire la prévention du risque de récidive suicidaire chez les gens qui ont déjà fait une tentative de suicide. Vous savez, quand on fait une tentative de suicide, on a beaucoup plus de risques d'en refaire une dans l'année. Donc, ça nous a paru être des gens particulièrement à risque. On sait que ces gens-là, comme ils sont souvent déprimés, au fond, ils remplissent plus les applications. C'est comme ça. Quand vous n'êtes pas bien, vous êtes plus sensible à l'idée de remplir une application. Et donc, on leur propose une application dont l'objectif est de les accompagner pendant une année, leur demander comment ils vont, leur donner des conseils adaptés grâce à cet algorithme expert et sans aucun contact particulier avec l'extérieur. Et c'est un surplus de la prise en charge habituelle. Bien entendu, la machine peut, parmi les conseils, lui dire « là, il serait peut-être temps d'aller aux urgences », mais elle n'a pas objectif d'être soignante directement. Elle a objectif d'être un système d'accompagnement. Donc là, on en est à la phase de développement de l'algorithme. Normalement, on prévoit que de pouvoir sortir une première version en fin d'année. C'est un travail juste quand même qui est multidisciplinaire. Ça nécessite effectivement des psychiatres, mais aussi des psychologues, des gens qui sont spécialisés en intelligence artificielle. Ceux qui connaissent Stéphane Mouchabak ne le reconnaîtront pas parce que j'ai pas réussi à obtenir une photo de lui, quand même. Mais enfin, bon, il faut beaucoup de gens pour faire ça. Et là, c'est qu'une partie des gens qui vraiment travaillent le plus. Et je vous remercie de votre attention.